Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plus de 665 millions de dollars de dommages et intérêts. L'amende est salée pour Greenpeace, condamné aux États-Unis pour avoir encouragé l'opposition massive à la construction d'un oléoduc. Donald Trump d'un côté de la ligne, Volodymyr Zelensky de l'autre. Cette fois, c'est avec le président ukrainien que le président américain s'est entretenu par téléphone. Un échange qualifié de positif et franc. Positif et franc, on espère que les Diables Rouges le seront sur le terrain ce soir. Match barrage aller de Ligue des Nations face à l'Ukraine. Les supporters belges ont fait le déplacement. Coup dur donc pour Greenpeace. L'organisation de protection de l'environnement vient d'être condamnée aux États-Unis. Elle doit verser plus de 665 millions de dollars de dommages et intérêts à l'exploitant d'un oléoduc dans le Dakota du Nord. Maxime Maillet, que reproche-t-on à Greenpeace ?
Eh bien, Energy Transfer, une entreprise américaine spécialisée dans le transport du pétrole, a poursuivi Greenpeace pour diffamation et incitation à la violence. Le groupe pétrolier accuse l'ONG d'avoir joué un rôle central dans un mouvement de protestation, un large mouvement lancé en 2016 contre la construction d'un oléoduc décrié. Cet oléoduc devait traverser des sites sacrés d'une tribu Sioux et menacer des sources d'eau potable. Ces Sioux ont tenté en vain d'empêcher ce projet. Ils ont été rejoints par des groupes écologistes, dont Greenpeace, et par moments par des milliers de manifestants. Des centaines d'entre eux ont été blessés et arrêtés. Energy Transfer a réclamé plusieurs centaines de millions de dollars de dommages et intérêts, et un jury du Dakota du Nord lui a donc donné raison.
Et Maxime, des observateurs s'inquiètent déjà des conséquences de cette condamnation.
Un chercheur en droit à l'Université de Columbia qualifie ce jugement de dangereux. Il pourrait avoir pour effet de réprimer les manifestations légales et la liberté d'expression. D'autres entreprises pourraient mener des actions similaires en justice. De son côté, Greenpeace dénonce une procédure abusive pour la faire taire et compte faire appel. Pas question de baisser les bras pour Sushma Raman de la branche américaine de Greenpeace.
The people who power organizations like Greenpeace, you can't bankrupt them.
Les personnes qui font marcher des organisations comme Greenpeace, vous ne pouvez pas les mettre en faillite. Elles sont là. Elles nous soutiennent pleinement et le travail continuera. Ce n'est pas fini. Le combat continue, le combat pour la justice, pour garantir la liberté d'expression, le droit de se rassembler pacifiquement, le droit de manifester pacifiquement. Notre quête continuera en faisant appel et au-delà.
Et Greenpeace a aussi donné rendez-vous à Energy Transfer devant la justice européenne. En février dernier, une plainte a été déposée aux Pays-Bas sur base d'une loi européenne pour combattre les procédures abusives.
Merci beaucoup Maxime Maillet. Israël a bombardé tôt ce matin la bande de Gaza. Au moins 10 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des frappes aériennes. Hier, la défense civile de Gaza avait recensé au moins 470 morts depuis la reprise des bombardements massifs dans la nuit de lundi à mardi. Ils se sont parlé pendant une heure. L'appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'est bien passé. L'échange était positif et franc, selon le président ukrainien qui s'est félicité notamment de recevoir des F-16 supplémentaires. Même son de cloche du côté de la Maison-Blanche. La porte-parole Caroline Leavitt évoque un appel fantastique.
Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires pour protéger ses civils et le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe. Le président Trump a également évoqué l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. Il a déclaré que les États-Unis pourraient être très utiles pour faire fonctionner les centrales nucléaires ukrainiennes grâce à leur expertise. La possession de ces centrales par les Américains serait la meilleure protection, le meilleur soutien pour l'infrastructure énergétique ukrainienne. Le président Trump a aussi évoqué les enfants disparus en Ukraine pendant la guerre, y compris ceux qui ont été enlevés. Et le président Trump a promis de travailler en étroite collaboration avec les deux parties pour s'assurer que ces enfants rentrent chez eux. Nous n'avons jamais été aussi proches de la paix qu'aujourd'hui.
Et de l'Ukraine, il en sera question au sommet européen qui se tient aujourd'hui à Bruxelles. Les dirigeants des 27 veulent faire bloc sur le plan militaire et économique face aux incertitudes qui planent sur les relations sécuritaires et commerciales avec les États-Unis. À l'exception du Hongrois Viktor Orban, tous devraient également réaffirmer donc leur soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky s'exprimera par visioconférence en ouverture du sommet. À la question de savoir comment financer ces nouvelles dépenses militaires, chaque État membre devra y aller de ses propres solutions. En Allemagne, par exemple, les députés ont voté cette semaine la fin du frein à l'endettement instauré en 2009 après la crise financière. Il a fallu pour cela réformer la Constitution pour valider donc un plan d'investissement géant de centaines de milliards d'euros. Cette décision a fait bondir les taux souverains des 27, ce qui a entraîné de facto une hausse des taux d'intérêt. Chez nous aussi, cette question se pose. L'État belge peut-il se permettre de s'endetter encore davantage? Va-t-on réduire les dépenses dans d'autres secteurs? Élément de réponse avec Cédric Loriot.
L'objectif du gouvernement fédéral est d'augmenter le budget de la défense de 8 à 12 milliards d'euros pour qu'il atteigne 2% du PIB dès cet été. Par facilité, l'État pourrait choisir de s'endetter encore plus, mais rien n'a encore été décidé en ce sens, nous confirme Jean Debout, le directeur de l'Agence fédérale de la dette.
On a des dépenses en plus, mais bon, ça peut être compensé aussi, donc par soit faire moins de dépenses, par plus de revenus, ou pas du tout. Si ce n'est pas compensé, bah quelque part, lui, il aura plus d'argent à emprunter. Ce qui pourrait avoir son effet sur les taux que la Belgique paie alors.
Et in fine, sur les taux d'intérêt accordés aux ménages belges, comme les emprunts hypothécaires, le gouvernement pourrait aussi réduire les dépenses dans d'autres secteurs ou vendre certains de ses actifs.
Il est évident qu'ils sont endettés plus. C'est juste une possibilité parmi les autres. Compenser cela par la vente des actifs, compenser cela par faire moins de dépenses sur des autres niveaux, moins de dépenses publiques, ou augmenter les revenus, c'est vraiment des choix politiques. Ce n'est que quand on voit vraiment quelle sera la solution, quel sera le nouveau chiffre qu'on peut estimer, quel sera l'effet sur les taux.
En attendant, toutes les pistes sont explorées. Hier, le Premier ministre Bart De Wever a suggéré au gouvernement wallon de réaffecter les fonds européens de cohésion accordés aux régions en difficulté à l'industrie wallonne de la défense.
Cela fait 3 mois qu'ils ne sont plus payés, des semaines qu'ils ne travaillent plus. Les 500 travailleurs liégeois du sidérurgiste Liberty Steel réclament la mise en faillite de leur entreprise. C'est à lire dans le journal L'Écho ce matin. Les Diables Rouges jouent ce soir en Espagne un premier match face à l'Ukraine avant la rencontre retour de dimanche. Une double confrontation importante qui peut permettre à la Belgique de se maintenir en Ligue A de Ligue des Nations. Ebi Brouzakis leur semble être à la réconciliation aussi entre l'équipe nationale et les supporters.
C'est le souhait en tous les cas de Sandrine qui effectue la plupart des déplacements des Diables Rouges. Il est temps de tourner la page, nous dit-elle.
Oui, on est toujours là pour encourager son équipe en tout cas.
Vous êtes prête à repartir d'une feuille blanche?
Voilà, on va tout faire pour aller chercher le plus de victoires possible.
Et pour cela, la Belgique pourra à nouveau s'appuyer sur son gardien. Thibaut Courtois est de retour, on le sait. Mais lui aussi devra consentir des efforts de séduction pour regagner le cœur de certains supporters déçus par l'affaire qui a secoué l'équipe nationale ces derniers mois. Mais là aussi, l'heure semble à la réconciliation, comme nous le confie Bram, rencontré dans les rues de Murcie.
On est malgré tout très content d'avoir, je pense, dans l'équipe des meilleurs gardiens du monde, donc on ne peut pas le refuser.
Antoine, quant à lui, semble un peu plus nuancé. Il a conscience que le retour de Thibaut Courtois ne va pas directement faire l'unanimité chez les supporters. Toutefois, il veut préciser ceci.
Je ne vais pas le huer, en tout cas, je ne vais peut-être pas l'applaudir directement. Il faut qu'il se refasse un nom dans l'équipe, je vais dire.
Et comme souvent dans ce genre de situation, le juge de paix reste la qualité des prestations fournies sur le terrain. Si Courtois multiplie les arrêts ce soir face à l'Ukraine, tout pourrait lui être pardonné.
J'espère juste qu'on va tirer un trait avec les supporters aussi maintenant, suivre le choix des coachs et de l'équipe.
Romelu Lukaku sera capitaine aujourd'hui, Kevin De Bruyne le sera dimanche, coup d'envoi ce soir à 20h45, un match à suivre sur la Une Télé. On termine par 2 infos, la ville de Bruxelles dépasse la barre symbolique des 200 000 habitants. En l'espace d'un quart de siècle, la capitale a vu sa population croître d'environ 65 000 personnes. Bruxelles est désormais la 2e ville la plus peuplée de l'espace Wallonie-Bruxelles derrière Charleroi. Et puis la Finlande se classe une nouvelle fois en tête des nations les plus heureuses au monde. C'est la 8e année consécutive que la Finlande décroche la palme du World Happiness Report. Elle est suivie du Danemark, de l'Islande et de la Suède. La Belgique est 14e, en espérant que vous soyez heureux, bien sûr. Merci de nous suivre et belle matinée.